Le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes présente à l'usage exclusif des auditeurs aveugles et amblyopes qui empruntent cet ouvrage des extraits du livre « Contes merveilleux des pays de France », texte collecté, introduit et annoté par Dagmar Fink, D-A-G-M-A-R, plus loin F-I-N-K, édition Iona, I-O-N-A, 1991. Dans cette cassette, je reprends uniquement des contes qui avaient été collectés dans la deuxième moitié du 19e siècle par Jean-François Bladé, B-L-A-D-E. C'est donc la première cassette, première face. Jean-François Bladé était un juge suppléant dans la petite ville de Lectoure, L-E-C-T-O-U-R-E, où il était né, sur les bords de la rivière du Gers, ou Gers, G-E-R-S. Il a recueilli de très nombreux contes qui sont, dans l'ensemble, je trouve, de très jolis contes. Le premier de ces contes s'appelle le Bécu, B-E-C-U-T. En gascon, bécu signifie celui qui a un bec et par extension le vorace, le glouton et même l'ogre. Il y avait autrefois une pauvre veuve qui vivait dans sa maisonnette avec ses deux enfants, un garçon et une fille. Le garçon allait sur ses 13 ans. Il était déjà fort, hardi, avisé comme pas un. La fille n'avait pas encore 10 ans. Elle était jolie comme un cœur et sage comme une sainte. Au bout de 7 ans passés, le garçon dit à sa mère : « Mère, de l'aube à la nuit, moi, vous et ma sœur, nous nous tuons à travailler pour gagner tout juste de quoi manger du pain. Je veux aller chercher fortune. Mère, je veux aller au pays des bécus, ramasser des cornes d'or, des cornes de bœufs et de moutons. » « Non, mon ami, je ne le veux pas, » dit sa mère. « Les bécus demeurent loin, bien loin, du côté du soleil couchant. Ils demeurent dans un pays sauvage et noir, dans un pays de hautes montagnes, où les gaves, G-A-V-E-S étant, tombent de 3 000 pieds, presque 1 000 mètres. Là, il n'y a ni prêtre, ni église, ni cimetière. Les bécus sont des géants grands de 7 toises. Une toise, c'est une ancienne mesure de longueur qui faisait à peu près 2 mètres. 7 toises, ça veut dire que ces géants étaient grands comme les maisons de 4 ou 5 étages. Les géants n'ont qu'un œil, juste au beau milieu du front. Tout le long du jour, ils gardent leurs bœufs et leurs moutons aux cornes d'or et ramènent ce bétail dans les cavernes le soir au coucher du soleil. Quant à leur nourriture, la viande ne leur manque pas. Pour dîner, ils tuent un bœuf. Pour souper, un mouton. Mais ils ne s'occupent pas des cornes d'or et les jettent. Quand ils attrapent un chrétien, ils le font cuire tout vif sur le grill et l'avalent d'une bouchée. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, le frère et la sœur cherchèrent des cornes d'or dans les montagnes, se cachant comme ils pouvaient sous les buissons, parmi les rochers, pour n'être pas vus des bécus. Au bout de 7 jours, leurs besaces, leurs sacs, étaient pleines. Assis tous deux, au bord d'un gave, ils comptaient. 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100 cornes d'or. Maintenant, nous sommes assez riches. Demain, nous retournerons chez notre mère. En ce moment, le soleil baissait. Un bécu passa, chassant devant lui ses bœufs et ses moutons aux cornes d'or. « Le bécu, Sainte Vierge, ayez pitié de nous !» Ils jetèrent leurs besaces et partirent au grand galop. Mais le bécu avait tout vu. Il les attrapa, les jeta dans son grand sac et repartit jusqu'à sa caverne, fermée d'une pierre plate du poids de 100 quintaux. D'un coup d'épaule, le bécu écarta la pierre, compta son bétail, le poussa dans la caverne et referma l'entrée. Cela fait, il secoua son grand sac à terre.
« Petit chrétien, soupez avec moi !»«
Avec plaisir, bécu !» Le bécu jeta un ster de bûche dans l'âtre, alluma le feu, saigna un mouton, l'écorcha, jeta la peau et les deux cornes d'or dans un coin et embrocha la viande.
« Petit chrétien, tournez la broche !»«
Bécu, tu seras obéi !» Tandis qu'il tournait la broche, le bécu posait sur la table un quintal de pain et 7 grandes cruches de vin.
« Petit chrétien, asseyez-vous là. Ne vous laissez manquer de rien et contez-moi les choses de votre pays. »
Le garçon savait de beaux contes. Il parla jusqu'à la fin du souper.
« Petit chrétien, je suis content de toi. Maintenant, à ton tour, petite chrétienne. »
La jeune fille savait de belles prières, en l'honneur du bon Dieu, de la Sainte Vierge et des saints. Mais au premier mot, le bécu devint tout bleu de colère.
« Oh, charogne, tu pries Dieu, attends, attends !»
D'une bouchée, le bécu l'avala toute vive. Puis il se coucha par terre, le long de l'âtre.
« Petit chrétien, conte-moi les choses de ton pays. »
Le garçon parla jusqu'à minuit. De temps en temps, le bécu l'interrompait.
« Petit chrétien, attise le feu, j'ai froid !»
Une heure après minuit, le bécu, plein de viande et de vin, ronflait comme un orage. Alors, le garçon pensa, « Et maintenant, nous allons rire. » Doucement, bien doucement, il s'approcha du feu, empoigna un tison rouge et pointu et le planta de toute sa force dans l'œil du bécu. Hein ? Le bécu aveuglé courait dans la caverne comme un possédé du diable, criant à se faire entendre à son lieu.
« Mille dieux ! Milliards de dieux ! Je suis aveugle ! Je suis aveugle !»
Le garçon, caché sous la litière parmi les bœufs et les moutons aux cornes d'or, riait, riait, riait. Au cri du bécu, ses frères se réveillèrent dans leur caverne.
« Oh 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 ! Qu'est-ce ceci ? Qu'est-ce donc tout ceci ?»
Et les bécus accouraient dans la nuit noire de toutes les montagnes avec des lanternes grosses comme des tonneaux, avec des bâtons hauts comme des peupliers.
« Oh 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 ! Qu'est-ce ceci ? Qu'est donc tout ceci ?»
D'un coup d'épaule, ils écartèrent la pierre de 100 quintaux qui fermait l'entrée de la caverne, où l'autre criait toujours
« Mille dieux ! Milliards de dieux ! Je suis aveugle ! Je suis aveugle !»« Frère !» dirent les bécus, « qui t'a mis en cet état ?» « Frère, c'est un petit chrétien. Cherchez-le partout, dans la caverne. Cherchez que je l'avale tout vif. Mille dieux, milliards de dieux, je suis aveugle, je suis aveugle !»
Les chrétiens cherchaient partout sans rien trouver, tandis que le garçon riait, caché sous la litière, parmi les bœufs et les moutons aux cornes d'or. À la fin, les bécus se lassèrent.
« Adieu, frère. Tâche de dormir, nous reviendrons demain. »
Les bécus refermèrent la caverne et partirent. Alors le garçon tenta de renverser d'un coup d'épaule la pierre de 100 quintaux qui fermait l'entrée de la caverne.
« Mère de Dieu, ce travail passe ma force. »
Le bécu écoutait.
« Je t'entends, petit chrétien, je t'entends, canaille. Patience, tout aveugle que je sois. » « Tu ne m'échapperas pas !»
Pendant 3 jours et 3 nuits, le garçon, le bécu et son bétail demeurèrent dans la caverne sans manger ni boire. À la fin, les bœufs et les moutons aux cornes d'or criaient de faim et de soif.
« Mouh ! Mouh ! Bé ! Bé ! Bé ! Mouh !
Attendez, pauvre bête ! Je vais vous ouvrir la caverne. Mais toi, petit chrétien, c'est autre chose. Patience, canaille. Tout aveugle que je sois, tu ne m'échapperas pas. »
Pendant que le bécu cherchait à tâtons l'entrée de la caverne, le garçon s'ajustait les cornes d'or et la peau du mouton saignée depuis 3 jours. Enfin, la pierre de 100 quintaux tomba.
Doucement, pauvre bête, doucement! Criait le bécu. « Vous les bœufs, passez les premiers, un par un. »
Il s'assit dehors sur le seuil de la caverne. Les bœufs passèrent les premiers, un par un, tandis que le maître tâtait les cornes de leur tête et le pelage de leur dos. Il comptait.
1, 2, 3, 4. Maintenant, à vous les moutons, passez un à un.
Après les bœufs, les moutons passèrent un à un, tandis que le maître tâtait les cornes de leur tête et la laine de leur dos. Il comptait. 1, 2, 3, 4, 5. Parmi les moutons, le garçon attendait à quatre pattes. Son tour venu, il arriva sans peur ni crainte. Mais le bécu se méfiait. En tâtant la laine du dos, il comprit que la peau s'ajustait mal.
Oh, petit chrétien, oh, canaille, attends un peu.
Mais le garçon décanta plus vite que le vent. Le bécu criait à se faire entendre de 100 lieues.
Malheur, le petit chrétien m'échappe. Au secours, frère, au secours.
Mais ses frères ne vinrent pas. Alors le bécu se coucha de tout son long en dehors de la caverne. Caché tout près, au bord d'un gave, d'un ruisseau, le garçon écoutait et regardait. Depuis 3 jours et 3 nuits, le bécu souffrait d'une grande envie de vomir. Dans son estomac, la jeune fille avalée vivait encore par la vertu de la petite croix d'argent dont sa mère lui avait commandé de ne se séparer ni le jour ni la nuit. Enfin, le bécu eut un hoquet terrible et vomit la jeune fille avec tout ce qu'il avait dans le corps. Doucement, bien doucement, le garçon emporta sa sœur, la baigna dans le gave et la couvrit avec la peau de mouton. « Hardi, ma sœur, dépêchons-nous !» 1 heure après, ils avaient retrouvé leur besace pleine de cornes d'or. 7 jours plus tard, ils étaient hors du pays des bécus. Ils étaient dans une ville grande et belle comme Toulouse. Le garçon entra dans la boutique d'un orfèvre. « Bonjour, orfèvre, veux-tu m'acheter cette corne d'or ?»« Oui, mon ami, je t'en donne 1000 pièces d'or. » Avec les 1000 pièces d'or, le garçon se choisit de beaux habits et fit vêtir sa sœur en demoiselle. Il acheta un cheval superbe avec la bride et la selle. Sur le devant de sa monture, il chargea les 2 besaces pleines de cornes d'or. « Vite, ma sœur, saute en croupe !» La jeune fille obéit et le cheval partit au grand galop. 7 mois après, ils arrivaient à la maisonnette de leur mère. Le garçon vida son sac à terre. « Bonjour, mère. Voici 99 cornes d'or, 99 cornes de bœufs et de moutons ramassées au pays des bécus. Nous sommes riches, vivons heureux. » Le deuxième conte s'appelle « Grains de millet » et « mis de zeloté ». C'est que le millet, c'est des toutes petites graines que mangent les oiseaux notamment. Il y avait une fois à La Couture, L-A-C-O-U-T-U-R-E, un métayer et une métayère, c'est une espèce de fermier et de fermière, mariés depuis 7 ans. Pourtant, ils n'avaient pas encore d'enfant. Un jour, la métayère songeait, en pétrissant la pâte pour le pain dans le fourni F-O-U-R-N-I-L, c'est l'endroit où on fait le pain, là où il y a le four à pain. « Ah, quand donc aurais-je un fils ?»«
Mère, vous en avez un ?»«
Où es-tu, mon fils ?»«
Je t'entends, mais je ne te vois pas. » « Mère, je suis trop petit pour être vu. C'est pourquoi vous m'appellerez Grain de Millet. »«
Grain de Millet, veux-tu téter ?»«
Merci, mère. Je suis né tout formé, tout vêtu, tout armé. J'en sais plus que les hommes de 40 ans. Commandez, mère. Tout ce que vous direz sera fait. »
Grain de Millet chasse les poules du fourni. Grain de Millet chassa les poules du fourni. Sa mère l'entendait crier « Psh, psh, psh !» Mais elle ne le voyait pas.
« Maintenant que les poules sont chassées, je vais aller trouver mon père. »
« Grain de Millet, sais-tu où il est ?»«
Oui, mère, il laboure là-bas, avec notre père de bœufs. Je veux lui porter son goûter. »«
Grain de Millet, tu ne pourras pas. »«
Mère, remplissez le panier, le reste me regarde. »
Gringoillet partit, emportant le panier sur sa tête.
Père, tenez, voici votre goûter.
Mais qui est là? J'entends parler, mais je ne vois personne.
Père, je suis Gringoillet. Je suis votre fils, né depuis une heure. Père, je suis trop petit pour être vu. C'est pourquoi vous m'appellerez Gringoillet. Tenez, voici votre goûter. Où faut-il que je le pose?
Gringoillet, pose-le sous cet arbre.
Père, c'est fait. Goûtez, je labourerai pour vous.
Mais Gringoillet, tu ne pourras pas.
Père, fiez-vous à moi.
Tandis que son père goûtait, Gringoillet se hissa jusqu'à la pointe de la corne droite du bœuf. Caubet, C-A-U-B-E-T, c'est le nom du bœuf, et le voilà parti.
Ah, Loret! Ah, Caubet!
Jamais Bouvier, c'est-à-dire celui qui conduit les bœufs, n'avait labouré de telle façon. En ce moment, l'évêque de Lectoure, L-E-C-T-O-U-R-E, passait, revenant de la ville de Fleurance, F-L-E-U-R-A-N-C-E, dans une superbe voiture à cheval. Il s'étonna fort de voir une paire de bœufs labourer seuls et d'entendre les cris de Bouvier sans voir celui qui criait.
« Métayer, dit-il à l'homme qui goûtait, métayer, qu'est-ce donc ceci ?»«
Monseigneur, c'est mon fils Gringoillet qui laboure à ma place. »
« Métayer, je l'entends, dit l'évêque, mais je ne le vois point. »
« Monseigneur, mon fils est trop petit pour être vu. C'est pourquoi il s'appelle Gringoillet. »«
Métayer, je veux ton fils comme cocher. Vends-le-moi, je t'en donne 1000 pièces d'or. »«
Monseigneur, excusez-moi. Gringoillet n'est pas à vendre. »
La voiture de l'évêque de Lectoure repartit. Quand elle fut loin, Gringoillet dit à son père.
« Père, pourquoi ne m'avez-vous pas vendu ?» Pour 1000 pièces d'or, à l'évêque de Lectoure.
Mais Gringoillet, je tiens à toi, tu es mon petit garçon.
Père, vendez-moi, je saurais bien me retourner à la maison.
Gringoillet, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui peut se faire une autre fois.
Père, retournez à la maison, bientôt le champ sera labouré. Fiez-vous à moi pour ramener les bœufs à l'étable et pour les panser.
Ce qui fut dit fut fait. Le champ labouré, Gringoillet ramena ses bœufs à l'étable. Mais en pansant son bétail, panser ça veut dire soigner, brosser, lisser le poil, nettoyer. Il tomba dans le fourrage et fut avalé par le bœuf Caubet. Inquiets de ne plus entendre leur fils, le métayer et la métayère entrèrent dans l'étable en criant
« Gringoillet ! Gringoillet !
Je suis dans le ventre de Caubet.
Gringoillet, Gringoillet.
Je suis dans le ventre de Caubet.
Gringoillet, Gringoillet.
Je suis dans le ventre de Caubet. »
Alors le père alla chercher un grand coutelas, saigna Caubet, le bœuf, l'éventra et jeta les tripes, les boyaux, dehors.
Gringoillet, Gringoillet.
Pas de réponse.
Gringoillet, Gringoillet.
Pas de réponse.
Gringoillet, Gringoillet.
Pas de réponse.
Quel malheur, Gringoillet est mort.
Le métayer et la métayère allèrent se coucher bien tristement.
Mais Gringoillet n'était pas mort.
Il était évanoui dans les tripes de Caubet, mais empêtré à ne pas pouvoir répondre. Quand il revint à lui, les étoiles marquaient minuit. En ce moment, les loups, attirés par l'odeur des tripes, accouraient du bois du ramier.
Ouh, ouh, ouh.
Le temps de dire amen, Gringoillet était passé avec les tripes de Caubet dans le ventre d'un loup qu'il avait avalé, et ils partaient emportés vers le ruisseau du Rieutor, R-I-E-U-T-O-R-T. Depuis qu'il avait ce petit homme dans son ventre, le loup souffrait terriblement de la colique. Au Rieutor, la mâle bête avala tant et tant d'eau qu'elle se vida tout d'un coup. Cela fait, elle repartit comme si le diable l'emportait. À force de se démener, Grain de Millet finit par se tirer d'affaire et courut se débarbouiller au ruisseau du Rieutor. Certes, il en avait besoin. Tout en se débarbouillant, il aperçut un homme grand, haut de 6 pieds, noir et barbu. L'homme semblait impatient et regardait les étoiles. Quand elles marquèrent 1 heure de la nuit, il imita le cri du hibou.
Hou 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 !
D'autres cris lui répondirent.
Hou 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 ! Hou 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 !
C'étaient des voleurs de bétail qui revenaient de faire leur mauvais coup chez les moines de Bouillas, B-O-I-2-L-A-S, chez le comte de Lamotte Goas, L-A-M-O-T-H, Trévignon, G-O-A-S, chez l'évêque de Lectoure et à la métairie de la Couture. Ces gueux, ces brigands ramenaient à leur capitaine je ne sais combien de juments, de poulains, de veaux, de bœufs et de vaches.
Ah ah, allons camarades, vous n'avez pas perdu votre nuit. Vite, partons pour la foire. Avec l'argent de ce bétail à vendre, nous aurons de quoi faire longtemps bonne chère et jouer aux cartes.
Ce qui fut dit fut fait. Mais le capitaine des voleurs ne se doutait pas qu'il emportait à la foire Grain de Millet qui s'était hissé jusque dans sa poche. Le bétail vendu, le capitaine dit
« Camarades, allons boire à l'auberge !»
À force de boire, tous finirent par tomber ivre-mort sous la table. Alors, Grain de Millet fouilla le capitaine des voleurs sans le réveiller et partit au grand galop pour la métairie de la Couture.
Bonjour père, bonjour mère, tenez, voici 100 fois plus qu'il ne faut pour remplacer notre combat éventré et pour renouveler le reste de notre bétail volé la nuit passée.
C'était vrai. La bourse du capitaine des voleurs comptait je ne sais combien de pièces d'or, des doubles louis, des quadruples d'Espagne.
Et maintenant, père, apportez une fiole.
Un flacon. Ce qui fut dit fut fait. Grain de Millet entra dans la fiole.
Et maintenant, père, prenez cette fiole et allez me vendre 1000 pièces d'or à l'évêque de Lectoure.
Le père prit la fiole et s'en alla trouver l'évêque de Lectoure.
Bonjour, monseigneur, j'ai changé d'avis. Si vous voulez toujours Grain de Millet pour cocher, comptez-moi 1000 pièces d'or.
Sans marchander, l'évêque de Lectoure paya comptant les 1000 pièces d'or et le père s'en revint à la Couture. Pendant toute une semaine, Grain de Millet montra ce dont il était capable. Jamais les chevaux de l'évêque de Lectoure n'avaient été si bien pansés, étriés, harnachés. Jamais sa voiture n'avait été si propre, si bien attelée. Jamais, au grand jamais, cocher n'avait conduit comme Grain de Millet. L'évêque de Lectoure était bien content. Mais il y a une fin à tout. Le matin du 8e jour, Grain de Millet criait dans l'écurie comme un homme écorché vif.
« Aïe, 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 je suis mort ! Aïe, 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 je suis mort !»«
Qu'as-tu, Grain de Millet ?» demanda l'évêque de Lectoure. « Qu'as-tu ? » ?»«
Aïe, 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 je suis mort ! Un cheval m'a broyé sous son pied ! Il m'a écrasé ! Aïe, 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 je suis mort !»«
Montre-toi, Grain de Millet, montre-toi, tandis qu'on va chercher le chirurgien. »
Mais Grain de Millet ne se montrait pas et ne criait plus. Alors l'évêque de Lectoure pensa « Grain de Millet est mort, j'ai payé cher ses bons services pour une semaine seulement. » Mais Grain de Millet n'était pas mort. Il arrivait au seuil de la métairie de la Couture.
« Bonjour père, bonjour mère, maintenant quittons le pays. Nous avons de quoi faire travailler les autres pour nous. Allons, comme les nobles, vivre heureux et riches dans un château. »
Le conte suivant s'appelle « La fève de Saint-Pierre ». Tu sais qu'une fève, F-E accent grave V-E, c'est une espèce de gros haricot. Tu connais bien sûr la fève qui est maintenant plutôt une petite poupée en porcelaine que l'on met dans la galette des rois. Mais autrefois, c'était une vraie fève. Près de la forêt de Bélesta, B-E accent aigu L-E-S-T-A, en direction de l'Espinasse, E-S-P-I-N-A-S, il y avait une pauvre cabane construite en planches et couverte de mottes de terre. Là vivait le charbonnier Pierre avec sa femme et quatre enfants. Ils étaient tous vaillants, mais pauvres, pauvres comme des rats d'église. Pierre sortait le charbon de la forêt avec un âne malingre qui ployait sous les charges. Cet âne était toute la fortune de la maison. Sur la table de Pierre, il n'y avait pas souvent de quoi manger, et quelquefois tous se couchaient avec le ventre vide. Et un vendredi du mois de mars, à midi, ils se partagèrent le dernier morceau de pain qui restait dans le buffet et les dernières pommes de terre du réduit. Alors les pauvres se mirent tous ensemble à prier tous les saints du paradis. Saint-Pierre les entendit le premier, et il descendit aussitôt du ciel. Arrivé devant la cabane, il vit ses enfants en guenilles et Pierre et sa femme vêtus comme des souillons et tous maigres, maigres comme des râteaux. Il en eut pitié.
« Eh bien, braves gens, leur dit-il, vous avez besoin de quelque chose ?
Mais ne voyez-vous pas que nous allons mourir de faim et de froid ?»
Alors Saint-Pierre sortit une fève de sa poche et la donna à Pierre. « Tiens, lui dit-il, je te donne cette fève. Tu vas la mettre tout de suite en terre. Lorsqu'elle sera sortie, tu mettras du fumier aux pieds et elle deviendra tellement, tellement haute qu'elle arrivera au ciel. Alors tu n'auras qu'à monter le long de sa tige et tu viendras frapper à ma porte. Mais avant que la fève ne soit haute, je vais te donner quelque chose. » Et il lui donna une poignée de pièces de 5 francs. Cet argent fut vivement englouti. Au bout de 8 jours, il n'en restait plus rien. La fève de Saint-Pierre était sortie et la tige s'était élevée vers le ciel. Il y avait déjà un bon moment que le sommet ne se voyait plus. Et Pierre se mit à grimper le long de la tige. Rigue-rague, monte par la fève, rigue-rague, monte par la fève. Il arrive devant la porte de Saint-Pierre.
Qui est-ce ?
C'est moi, le pauvre Pierre. Je viens vous demander quelque chose pour manger.
Eh bien, redescends tout de suite et tu trouveras tout ce que tu voudras.
Rigue-rague, descends par la fève, rigue-rague, descends par la fève.
Arrivé à la cabane, il voit la table couverte de plats. Dans l'un, il y avait un poulet rôti, dans l'autre, un gros morceau de bœuf, dans un troisième, une croustade bien dorée. Et à côté de tout cela, 2 ou 3 bouteilles de vin et une demi-douzaine de pains.
« Et tu ne sais pas, papa, ce que vient de faire notre âne ?» lui dit son aîné.
« Que non pas, mon fils !»
Eh bien, maintenant, chaque fois qu'il braie, au lieu de faire des crottes, il nous fait une pleine casserole de pièces de 5 francs. Tiens, regarde tout ce qu'il a fait ce matin. Et l'enfant lui montra une casserole pleine de pièces d'argent. Au bout de 8 jours, Pierre dit,
maintenant que nous avons quoi manger, il nous faudrait de quoi nous vêtir.
Et il revint frapper à la porte du paradis. Rigue-rague, monte par la fève, rigue-rague, monte par la fève. Arrivé là-haut.
Qui est-ce ?
C'est moi, le pauvre Pierre, qui viens vous demander de quoi nous vêtir.